ces temps archaïques, il y a plus de 1200 fois 1200 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de roseaux, pas de genévriers. La terre n'avait pas de nom. Le ciel n'était pas nommé. En ces temps-là, il n'y avait rien que l'eau douce et l'eau salée. L'eau douce absout le fougueux. L'eau salée, Tiamat, la belle Tiamat. Et comme il n'y avait que l'eau douce et l'eau salée, en ces temps-là, l'eau douce et l'eau salée ont mêlé leurs eaux. Alors bien sûr, Apsu et Tiamat se sont aimés et ils ont fait de l'écume. Et puis le temps a passé, les eaux étaient mêlées et il y eut naissance.
C'est l'histoire d'un paysan qui avait un âne et un taureau. Et ce paysan, comme tous les paysans, il avait besoin de labourer son champ. Alors tous les matins, il prenait sa charrue, il prenait son taureau et il partait au travail. Les taureaux travaillaient toute la journée. Le soir, il rentrait, il était complètement épuisé. Il mangeait, puis il dormait. Le matin, il se réveillait, il était en pleine forme, il repartait au travail. Pendant ce temps-là, l'âne ne faisait jamais rien. Une fois par mois, son maître le lavait, le nettoyait et le conduisait en ville. C'était le seul travail de l'âne. Un soir, comme tous les soirs, le taureau est arrivé épuisé. L'âne lui a dit, « Mon frère, tu travailles trop, repose-toi un peu. » Le taureau a dit, « Mais t'es drôle, toi. T'es à côté de moi, tu vois que tous les matins, mon maître vient me chercher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» L'âne lui a dit, « Ton maître vient te chercher parce que toi, tu ne réfléchis jamais. Tu arrives tous les soirs complètement épuisé. Tu manges et tu dors. Le matin, tu es en pleine forme. Mais un seul soir, refuse de manger. Roule-toi dans la poussière, comme ça tu auras la peau grise. Et le matin, quand tu entends les pas de ton maître, retiens ton souffle, gonfle ton ventre, fais semblant que tu es malade. Ton maître te laissera te reposer les 3 jours. Le taureau lui a dit, toi, tu es mon frère pour de vrai. Et ce soir-là, le taureau n'a pas mangé. Toute la nuit, il s'est roulé dans la poussière. Et le matin, quand il a entendu les pas de son maître, il a retenu son souffle. Il a gonflé son ventre. Il a fait semblant qu'il était malade. Le paysan est arrivé. Il a vu le taureau et s'est dit, « Mon Dieu, j'ai aucune pitié, ce taureau, je l'ai fait trop travailler, il faut qu'il se repose. » Et le paysan a décidé de laisser son taureau se reposer quelques jours. Mais comme tous les paysans, il avait besoin de labourer son champ. Regarde autour de lui. Autour de lui ne restait que l'âne. Le paysan a pris l'âne et pendant 3 jours, il a labouré son champ avec l'âne.
Parfaite. Elle était parfaite. Chaque jour, elle accueillait son chasseur de mari avec tous les gestes de la perfection. Elle lui enlevait ses bottes. Elle lui dégelait de la glace, elle lui préparait un bouillon d'os de renne. Il adorait ça. Un jour, le chasseur est entré très tôt de la chasse. Il n'a pas trouvé sa femme. Quand elle est arrivée, elle avait l'œil brillant, la joue rose. Dès qu'elle l'a aperçue, elle s'est précipitée. Les bottes, de la glace, du bouillon ? Il adorait ça. Le chasseur a mangé, il n'a rien dit. Le lendemain, il est sorti comme pour une longue chasse et il est allé se cacher derrière l'igloo.
Pas n'importe quel chasseur, le chasseur. Cet homme-là, il connaissait toutes les bêtes du forêt. Il connaissait les repères, il connaissait où est-ce qu'il hivernait. Où est-ce qu'il allait chercher de la nourriture? Il savait comment les piéger. Il les prenait avec arc et flèche, il les prenait avec lance. et un homme généreux, un homme vaillant. Cet homme-là, on disait de lui que si toutes les feuilles de l'automne étaient de l'or et l'écume des mers était de l'argent, il aurait tout donné. Il n'y avait personne dans son village qui avait faim, tout le monde habillé dans des belles fourrures. Mais il n'y a personne parfait, et lui, il y avait un défaut. Il y avait le défaut qu'il aimait ça, le jeu. Il aimait jouer avec les dés en os. Dans le temps que je vous compte, ce matin-là, il est parti à la chasse avec lance, arc et flèche. Et prenant les chemins dans le bois, il tourne un coin, puis devant lui, un vieillard. Oh, mais vieux! Tellement vieux cet homme-là qu'il lui restait rien qu'un dent dans sa bouche, et cette dent-là, tellement longue qu'il s'en servait comme canne à marche. Un visage tellement ridé, on aurait dit un labyrinthe pour tester l'intelligence des larmes. Mais ses yeux, ah! Des yeux qui brillaient, qui brûlaient. Et pointant un doigt vers le chasseur, il dit « Chasseur, chasseur, tu vas jouer avec les dés en os. »
Il faisait ça tout le temps. Il garait sa pirogue en haut de la cascade et il partait chasser. Et ce jour-là, il revenait à sa pirogue avec son gibier. Bon, c'était la fin de la journée. Il monte dans sa pirogue, il prend ses pagaies et puis il remonte le courant pour rentrer chez lui dans son village. Et là, bon, il était au milieu du fleuve, il était en train de pagayer. Et forcément, dans son dos, il entendait le bruit de la cascade tout le temps, qui s'éloignait en fait parce qu'il partait. Et ce jour-là, il était en train de pagayer. Et là, bizarrement, ben, le bruit de la cascade, au lieu qu'il se rapproche, Enfin, au lieu qu'il s'éloigne, il se rapproche.
Il y a eu un homme qui marchait le long d'une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il a aperçu une jeune femme. Il l'a appelée mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer comment on fait pour passer de l'autre côté ? Elle a dit, mais monsieur, vous y êtes déjà ? De l'autre côté.
Sache, roi Salomon, que c'était à l'époque où le roi, père de Balkis, était encore célibataire. Il régnait sur le pays avec bonté. Et un jour qu'il était parti à la chasse, il avait couru derrière une gazelle jusqu'à se perdre complètement dans le désert et puis aussi perdre la trace de la bête. Et puis ben voilà, il avait tout perdu. Et comme il avait tout perdu, il a laissé la bride sur son cheval. Et puis, comme le cheval était trempé de sueur, ben il est descendu, il a mis pied à terre et puis il a marché lentement, tranquillement, pendant que le cheval séchait. Et pendant qu'il marchait comme ça, il a vu au sol quelque chose, un spectacle étrange. C'était un tout petit serpent blanc, transparent presque, très fin, qui était attaqué par un énorme serpent noir qui semblait vouloir le marteler, l'écraser de toute sa puissance. Et le combat était tellement disproportionné que le roi, indigné par ça, d'instinct, a pris une pierre et l'a lancée contre le serpent noir et l'a atteint en plein sur la tête et ça l'a tué net. Et quand le petit serpent blanc s'est vu délivré, il a lâché prise et il s'est évanoui. Le roi l'a ramassé. Et il a cherché autour de lui un endroit d'ombre et il a trouvé un creux de roc où il restait encore un petit peu d'ombre et puis même un petit peu d'humidité. Et il l'a déposé là pour que le serpent se repose tranquillement, reprenne ses forces et se réveille naturellement.
C'était un ver de terre. Ben oui, sa femme lui avait dit le premier animal qui croise ta route. Eh bien, l'homme se penche, ramasse le ver de terre et la ramène à la maison.
Dit la femme. Oh, regarde, il te ressemble. Oui.
Oh, on va l'appeler Gnocco. Oui, Gnocco. Alors la femme dépose son fils adoptif dans un bol. Elle lui met un peu de salade et elle va se coucher heureuse d'être enfin mère. Le lendemain, elle va voir son fils. Oh, il a déjà grandi. Mais il n'a pas mangé sa salade. Ah, peut-être qu'il n'aime pas la salade. Alors, la nouvelle mère lui donne des carottes. Gnocco ne mange pas les carottes. Alors, elle lui donne du pain. Gnocco ne mange pas le pain. Elle lui donne du fromage. Elle lui donne du chou. Elle lui donne des pommes. Gnocco ne mange pas les pommes, pas les choux, pas les carottes, il mange rien. Qu'est-ce qu'on va donner à cet enfant-là? Alors le mari qui revient d'une chasse peu fructueuse, il avait réussi à tuer un petit moineau. Mais bon, quand t'as faim, c'est mieux que rien. Alors la femme vide le moineau et, oh, instinctivement, donne le cœur du moineau à Gnocco. Et Gnocco avale le cœur.
Prenez un œuf, pas n'importe quel œuf, non, un œuf de coq. Il paraît qu'ils en pondent dans leur 7e année. Cet œuf, vous le posez sur un tas de fumier. Attention, pas n'importe quel fumier, hein. Un fumier bien fumant, bien chaud, bien puant. Vous faites couver l'œuf par un crapaud. Pas n'importe quel crapaud, hein, un crapaud bien gluant, bien dégoulinant, bien pustuleux. Au bout d'un certain temps, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, qui sait, il en sortira le basilic, étrange animal, qui ne sait pas s'il doit être coq ou serpent. Si bien qu'il a choisi d'être les deux à la fois. Une tête de coq avec la crête. Un corps de coq, des pattes de coq et une longue, longue queue de serpent. Du serpent, le basilic a gardé aussi le venin. Il est imbibé de venin. Il dégouline de venin. Et il pue!
Je l'ai présenté au boucher, mais le boucher m'a dit, elle vaut rien ta vache, tu peux te la garder. Alors je l'ai emmené sur la place du marché. Et pendant 2 heures, j'ai crié « Vache à vendre, vache à vendre, elle est belle ma vache, venez faire une bonne affaire. Vache à vendre, elle est belle ma vache, venez faire une bonne affaire. »
C'est une vache. Elle broute paisiblement dans son pré. Elle s'arrête parce qu'elle vient de voir perché sur un brin d'herbe. Elle vient d'apercevoir une coccinelle.
« Eh ?»
fait la vache.
«
Plaît-il ?»«
Je voulais dire, on ressemble, hein ?»«
Quoi ?»«
Oui, je veux dire, on se ressemble, à cause des taches dans le dos, toutes les deux. Et puis, on est belles et les hommes nous aiment. »«
Comment ?» répond la coccinelle. Mais les hommes me préfèrent. Ils me prennent dans leurs mains, ils soufflent, et quand je m'envole, ils disent que je porte bonheur. Pourraient-ils en faire autant avec vous?
Oh, c'est toujours pareil, marmonne la vache. C'est toujours pareil, les hommes, soyez fidèles, donnez-leur du lait tous les jours. Ils vous préfèrent des filles légères, des belles envolées. Oui, mais un jour, tiens, ça va changer. À moi aussi, il poussera des ailes. Et les hommes n'auront qu'à traire les coccinelles. Eh bien, ce jour-là est arrivé. C'était le jour de tous les possibles.
Maman ? Maman ? Oui, Antoine ? Est-ce que Juju pourrait retourner dans ton ventre ? Mais bien sûr, mon chéri. Il suffirait de la couper en tout petits morceaux et de la mettre dans une casserole et de la faire cuire. En même temps, elle est tellement petite. Je crois qu'en dessert, je serai obligée de manger son grand frère.
C'est l'histoire d'un roi, riche et puissant. Et il avait une reine maigre, triste, pâle. Elle n'avait aucun appétit, ni pour la nourriture, ni pour la vie. Le roi regardait sa reine et ne savait pas comment faire pour lui redonner les rondeurs qu'elle avait quelques années auparavant. Un jour, le roi regarde par la fenêtre de son palais lorsqu'il voit une femme au corps généreux, au regard radieux. Mais c'est la femme du jardinier. Sa femme à lui a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'une femme peut souhaiter. Elle est maigre comme un couloir rouillé. Le jardinier n'a pas de quoi se nourrir tous les jours. Il a une femme avec des formes d'abondance. Le roi sort de chez lui et va trouver son jardinier. « Ta femme est resplendissante, la mienne est souffrante. Dis-moi, de quoi tu la nourris ?»« Moi ?» répond le jardinier. « Je nourris tous les jours ma femme avec la chair de la langue. »
Plus de grenouilles, plus de hérons, plus de petites gouttes d'eau, semblables à elle comme deux gouttes d'eau. Il pleut dans ses yeux, pleut sur ses joues de gouttes rondes, petits grains de chagrin mouillés, petits grains de chagrin salés.
Shadow, croupissant dans la sécheresse absolue, blanchissant les uns après les autres par la mort et la vie qui s'échappe. Marionde voyait des squelettes agonisants, des hommes, des femmes à moitié morts vivants. Et devant la souffrance du monde, pleurait Marionde. Dans le silence éternel, une voix s'est fait entendre. « On ne pleure pas. Garde l'eau dans ton corps. Sinon tu vas mourir. Ferme les yeux, ferme la bouche. Ici, on ne pleure pas, fille. » Un clair-obscur c'était les yeux d'un vieux prisonnier qui se relevait difficilement à travers les pierres du cachot. Et il a marché parce qu'elle n'était point capable de garder les larmes, les diamants de l'âme au fond d'elle. Puis le vieux prisonnier, qui ressemblait à une cage thoracique, mangé de l'intérieur, décharné des hanches, a penché son visage, a sueur sur Marion, puis elle a fermé les yeux, puis elle a senti une main lui essuyer une larme.
Eh bien, il y en a un qui s'est levé du fond de la salle, qui s'est dirigé vers la porte et qui a dit « Moi, j'y vais. » Il devait avoir besoin d'argent, celui-là. Il est sorti, il est rentré chez lui, il a mis ses raquettes à neige devant la maison et puis quand les raquettes ont été attachées, il a levé les yeux, il a regardé le grand pré tout blanc. Il n'y avait pas trop de lune, mais sur la neige, on voit toujours quand même un peu. Puis il s'est dit, ça sera vite fait. Ça devait être peut-être vers les 10 heures du soir, il s'est dit qu'à minuit, il serait arrivé là-haut. Il a pris le pré, il a grimpé jusqu'en haut du pré, puis en haut, c'est facile pour aller à la chevrette. Même dans le noir, on voit le chemin tellement c'est large pour l'été, pour passer les chars. Il a grimpé comme ça, tranquillement. Et juste avant d'arriver à la chevrette, la forêt, ça fait comme une bosse, et puis derrière, il y a la prairie, et tout au fond, le chalet. Et là, quand il est arrivé sur la bosse, il a vu que sur la prairie, il n'y avait pas un brin de neige. Rien. Et même, ça sentait la boue. Ben, au lieu de le réchauffer, ça lui a fait froid dans le dos. Il s'est baissé pour défaire ses raquettes, et quand il s'est relevé, il a vu que dans le chalet de la chevrette au fond de la prairie, il y avait du feu. S'il y avait du feu, c'est qu'il y avait quelqu'un. S'il y avait quelqu'un, il ne serait pas tout seul. Alors il s'est avancé, il s'est approché de la cabane, il a frappé, puis il a poussé la porte, et là, il l'a vu. Il était assis, mais il avait la tête qui touchait les poutres du plafond. Il était assis et il avait la barbe et les cheveux qui touchaient par terre. Il était assis, c'était pas dérangé pour lui parce qu'il était trop occupé. Avec le doigt, il raclait la graisse de son mollet, il passait la graisse au-dessus des flammes, ça faisait des grandes flammes bleues, et il léchait sa graisse. Et il raclait la graisse de son mollet, des grandes flammes bleues, et il léchait sa graisse.
C'était en 1978. À l'époque, j'étais journaliste, il y a eu la première invasion du Sud-Liban. J'ai quitté Beyrouth, je suis parti dans le sud. Juste après la ville du Tir, il y a un village qui s'appelle Al-Bayada. On savait que les tanks israéliens avançaient vers le village. J'ai laissé ma voiture à l'entrée du village et suis entré à pied. Il y avait des explosions partout, il y avait des morceaux de vitres partout et c'était la panique générale. Ça sentait la poudre. Je voulais voir l'arrivée des tanks israéliens. Je commençais à faire demi-tour quand soudain j'ai vu une femme, une paysanne. Elle était penchée, elle travaillait avec le calme, avec les gestes du paysan qui travaille sa terre tous les jours. Comme si la guerre n'existait pas. Comme si les explosions autour d'elle n'existaient pas. Au début, je pensais que cette femme était complètement sourde, ou peut-être elle ne les voyait pas, elle n'entendait pas. Et mon premier réflexe, c'était de la secouer, de lui dire qu'il ne faut pas rester ici. Mais chose bizarre, je suis resté cloué. Cette femme m'a pris complètement dans ses gestes, dans ses mouvements, dans son calme. Je me suis retrouvé là, comme ça, planté à regarder ses mouvements. J'entendais plus les bombardements, je voyais plus les tanks qui avançaient, j'entendais plus les avions qui passaient. Et puis j'ai commencé à voir autour de cette femme les coquelicots, les éclamelles, les plantes, les fleurs. Je me suis rappelé qu'on était au printemps. Je me suis rappelé que le printemps était beau au sud Liban. Alors j'ai pris mon carnet et j'ai noté, j'ai appelé cette femme « Femme printemps ». «
choses au point où l'on en est. Je prends pour fait et cause la vie qu'on voit danser au creux de nos deux mains, entre nos doigts serrés, au coule des lendemains qui nous laissent presque sans voix. Ça va ? La vie, ça va la vie. Les plaines traversées, l'horizon qui s'éloigne, les voiles qu'on a hissées, les rives qu'on a quittées, les îles et les escales où l'on s'est oublié, nous laissent presque sans voix, presque sans voix. Ça va la vie ?
Ça va, ça va. La vie.
Ça va ?
Ça va, ça va.
La vie.
La vie, ça va la vie.
Ça va la vie.
Ça va.
Ça va la vie.
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 Ça va.